When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute! Salut Anne-Claire, comment vas-tu ?
Salut Safia, bah ça va super bien, merci de m'inviter.
Tu es la fondatrice d'Eco Factory, qui est un site, une plateforme, un média dédié au podcasting où tu mets du contenu à la fois gratuit, mais tu proposes aussi des accompagnements pour les podcasteurs qui ont envie de propulser leur émission et d'obtenir plus de résultats avec. Tu es également l'hôte du podcast Antipop. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Non, pas du tout. Tu as très bien, tu as très bien déroulé mon CV. Je me sens honorée que, que tu es si bien.
Eh bien, parle-nous un peu de ton expérience avec le podcast. Comment tu l'as découvert et qu'est-ce qui t'a motivée surtout à en faire ton métier ?
Alors, ça remonte il y a 5 ans. J'étais en agence de communication digitale parce que mon premier métier, c'est vraiment la communication, la stratégie, le marketing. Et j'avais en tête de lancer mon propre projet entrepreneurial. Et je trouvais pas d'idée. Et en parallèle, rien à voir, je fais une recherche sur Google et je trouve le podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui est un podcast qui est terminé, mais qui en 2018 a fait du mind blast, qui a explosé le cerveau de beaucoup de personnes sur les internets mondiaux français du podcast natif. Et je suis tombée complètement dans la marmite. J'ai commencé à écouter toutes ces émissions, puis celles de Lorraine Bastide, Charlotte Pudlowski, qui étaient invitées sur Nouvelle École. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une source d'informations géniale, etc. Bon, si tu écoutes des podcasts, tu sais déjà tous les intérêts, mais voilà, j'étais vraiment en amour, j'avais des cœurs dans les yeux. Et j'ai commencé à me dire, ah bah, c'est marrant le podcasting, pourquoi moi je connaissais pas ? Est-ce que c'est une tendance qui existe quelque part ? Donc j'ai commencé à voir qu'aux États-Unis c'était devenu un marché, que c'était quelque chose qui était vraiment en croissance. En France, on était au balbutiement et je me suis dit, la fleur au fusil, bingo, ça, c'est là-dedans que je vais lancer mon projet entrepreneurial. Et en rencontrant des podcasteurs, j'ai remarqué qu'il y avait un espèce de rencontre ratée entre les personnes comme moi qui ne savaient pas que les podcasts existaient et les podcasteurs qui créaient du super contenu, mais qui n'arrivaient pas à savoir s'il était écouté, un petit problème de découvrabilité, de croissance, ou même tout simplement d'avoir des retours de son audience en disant « j'ai des écoutes, mais genre c'est... » silence radio quant au feedback. Et je me suis dit, bah, c'est trop dommage. Moi, j'ai envie de créer cette rencontre entre l'audience et les podcasteurs. Et ma première proposition a été totalement autre que celle que je fais aujourd'hui. J'ai d'abord créé un produit tech sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, que j'ai arrêté parce que c'était pas mon projet, un produit tech, c'était pas quelque chose qui était adapté à ce que j'aimais faire, au-delà de voilà, plein d'autres obstacles que j'ai rencontrés mais qui m'ont appris beaucoup et notamment qui m'ont apporté de connaître parfaitement mon écosystème. J'ai créé des blogs, des contenus, des événements pour faire connaître mon appli et ça m'a permis de créer un écosystème hyper riche autour de moi et au moment de mon pivot pour faire ce que je fais aujourd'hui, être déjà connue auprès de ma communauté de podcasteurs et podcasteuses indépendants. Voilà.
Alors c'est drôle parce que l'épisode précédent, c'est une interview avec François Allais et lui aussi a mentionné le podcast Nouvelle École comme, tu vois, comme élément déterminant dans le lancement de son podcast, dans sa volonté d'exploiter le format. Donc on se rend vraiment compte finalement de l'impact de cette émission et de ce que ça a pu créer chez pas mal de monde. Donc c'est très très cool. Parle-moi un peu de cette appli que tu avais créée. C'était quoi la vision avec ? Elle permettait quoi ?
Alors elle permettait en tant qu'auditeur de se créer un profil sur mesure, on déclarait ses centres d'intérêt et l'appli nous poussait des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt et qui étaient des ambassadeurs, qui étaient particulièrement actifs sur les applis. Et c'est un système de recommandation à la fois social, mais aussi algorithmique pour te permettre de découvrir des nouveaux contenus. Et ça permettait aussi de laisser des feedbacks. J'ai adoré cet épisode, etc. Donc ça enrichissait tout le réseau social de l'application, mais ça permettait aussi au podcast podcasteuse de recevoir les fameux feedbacks qui leur manquaient. Donc j'avais créé voilà tout ce système là de recommandations à la fois algorithmiques mais aussi sociales.
Ok, c'est hyper intéressant parce qu'au final ça reprend ce que tu fais aujourd'hui, cette volonté de connecter les podcasteurs avec leur audience, mais du coup différemment.
Exactement, franchement c'est ce dont je me suis rendu compte au bout de 2 ans, c'est que ma mission elle restait la même. Et les ingrédients phares étaient restés les mêmes, la mise en valeur des personnes, le fait de connecter un podcasteur et son audience, le fait d'être sur quelque chose de collectif, de communautaire. Donc ça, c'est des ingrédients qui restent toujours présents dans mon approche. Mais en fait, le moyen d'accomplir cette approche, elle pouvait être différente. Et je suis revenue à ce que je savais faire et ce que j'aimais le plus faire, c'était conseiller des gens sur leur marque, leur communication, leur stratégie et la création d'une communauté autour de leur projet pour qu'ils gardent du plaisir, ça les accomplisse vraiment, ça corresponde vraiment à ce qu'ils ont dans le bide, parce qu'on a toujours un truc dans le bide quand on commence un projet, que ce soit entrepreneurial ou podcastique, et parfois on se l'avoue pas. Moi je suis là pour dire, pour t'aider à t'avouer ce que t'as dans le bide, et aussi faire en sorte qu'il y ait des résultats, parce que on a envie d'être ambitieux, on a envie de grandir et pour moi il y a des moyens faciles, accessibles pour y arriver.
Mais écoute, c'est parfait. En plus, je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour partager des astuces pour faire connaître son podcast et le développer. Tu as toujours été de très bons conseils pour moi. À chaque fois, c'est très pertinent. Donc, je me dis que là, pour les auditeurs, c'est du pain béni.
Merci, Safia.
Écoute, je te propose qu'on démarre tout de suite avec cette première astuce.
Ouais, j'avais envie, avant de rentrer dans le dur, de faire un peu un petit disclaimer. Parce qu'il y a quelque chose que j'entends tout le temps, qui m'énerve un peu, pour tout avouer. C'est les recettes un peu toutes faites qu'on lit quand on fait des recherches Google ou quand certains podcasteurs, podcasteuses qui ont pignon sur rue s'expriment sur le sujet. C'est qu'en fait, on entend toujours un peu les mêmes choses de « pour avoir un podcast à succès, il faut 3 petits points ». Et donc souvent, quand on complète les 3 petits points, c'est « il faut publier chaque semaine, il faut absolument faire ci et faire ça ». Et moi, je voudrais faire un disclaimer et proposer de prendre un peu de recul par rapport à toutes ces injonctions qu'on entend et aussi donner un peu une approche différente de quelle stratégie mettre en place pour son podcast en fonction de son niveau de maturité. Parce qu'en fait, qu'on soit à ses premiers épisodes, à la fin de sa saison 1 ou à sa saison 2, ce n'est pas les mêmes stratégies qui vont marcher. Mmh. Et en fait, aussi pour ajouter un peu de neurosciences, parce que c'est un peu mon petit dada en ce moment, c'est que en fait, ces podcasteurs qu'on entend souvent avec les mêmes recettes, on est victime du biais du survivant. C'est-à-dire que c'est ces personnes-là qui s'expriment, eux, ça a réussi, puisque ils ont X millions d'écoutes, ils ont atteint tel objectif qui nous semble désirable. Mais le biais du survivant, c'est mettre en place et mettre en avant une recette qui semble marcher à chaque fois, mais c'est juste que ça a marché pour eux, dans certaines conditions, à un certain timing, après aussi beaucoup d'échecs. Donc c'est pour ça que je voudrais aussi donner un peu de perspective par rapport aux stratégies qu'on doit mettre en place par rapport à son propre niveau de maturité. Et comment est-ce qu'on connaît son niveau de maturité ? Pour moi, il y a un peu trois critères. C'est, bon, classiquement, le nombre d'écoutes par mois. Si on est à moins de 2000 écoutes par mois, pour moi, on est encore un podcast qui est dans ses débuts. Et à moins qu'on soit sur une niche qui est hyper qualifiée, par exemple très B2B, mais si on est sur une cible qui est un peu plus large, en dessous de 2000 écoutes par mois, on est sur des débuts. Il faut aussi regarder la traction, la croissance de son nombre d'écouteurs uniques. C'est est-ce que le nombre de personnes qui nous suivent physiquement, est-ce qu'il est en train de grandir ? Donc, est-ce que notre communauté grandit, pas seulement nos écoutes ? Et aussi, est-ce qu'on reçoit des retours, des feedbacks sur notre contenu ? Et c'est pas seulement de notre papa, de notre maman, de notre meilleur ami pour nous faire plaisir. C'est des gens qu'on connaît pas et des gens qui sont dithyrambiques, mots compliqués, Scrabble plus 50 points. Genre qui sont hyper contents d'avoir trouvé notre contenu. Si on n'a pas un nombre d'écoutes croissant, un nombre d'auditeurs uniques en traction et un nombre de retours qui est régulier de personnes qu'on ne connaît pas et vraiment au top du game, je considère qu'on est dans un podcast qui est encore dans ses débuts. Et donc du coup, les quatre conseils que je vais donner, il faut particulièrement s'y appliquer parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé ce que j'ai appelé un peu son minimum viable podcast, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, on est en train de faire des tests, etc., mais on n'a pas encore trouvé sa formule magique, sa formule gagnante qui nous ressemble vraiment et qui, quand on l'a trouvé, fait que notre podcast, il a toutes les conditions pour grandir. Si on voit juste un petit digression, si on est vraiment à sa saison 2, qu'on est à plusieurs dizaines de milliers d'écoutes par mois, etc., on peut toujours appliquer ces conseils-là, mais on pourra aussi se pencher vers des stratégies un petit peu plus larges, comme une stratégie de présence sur Google de référencement naturel, comme des partenariats avec des médias qui soient peut-être papier ou des médias ou des communautés qui sont un peu plus larges par rapport à notre cible. Ça sera des stratégies de croissance qui vont payer, mais ne vous attaquez pas à ces stratégies-là avant d'avoir fait vraiment la liste des indispensables pour trouver son minimum viable podcast. Voilà.
Mais c'est très intéressant, effectivement, tu fais bien de le dire. C'est vrai qu'on a tendance à voir un peu les mêmes conseils sur Internet et un podcasteur qui démarre, il se dit « Ok, bah, en fait, c'est ce que je fais déjà. » Et pourtant, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est bien de préciser qu'il y a aussi certains conseils à adapter en fonction de sa situation et que tout ne va pas convenir forcément à tout le monde de la même manière, en tout cas. Je trouve que c'est une précision qui est vraiment importante. Donc, merci pour ça.
Le premier conseil que je donnerais pour actionner un peu un levier de croissance, c'est de travailler sa différence. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts qui se lancent et il y a une forte probabilité qu'au moment où vous lanciez, il y a d'autres podcasts de votre thématique qui traitent plus ou moins de la même manière. Ou que quelques épisodes après votre lancement, il y en a un qui se lance sur vous. Et travailler sa différence, pour moi, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça aide la personne à qui vous destinez ce podcast à vous choisir et à choisir parmi toute l'offre. Je le disais, moi, par rapport à ce qui, moi, m'a décidé de me lancer dans le podcast, c'est que parfois, on est face à toutes ces offres et on ne sait pas comment s'y retrouver. Donc, du coup, pour créer la rencontre et pour attirer à soi ses auditeurs, avoir une approche vraiment, montrer vraiment sa différence, ça va les aider à vous choisir. Et deuxièmement, c'est un atout concurrentiel, c'est une approche marketing 101, c'est que travailler sa différence, c'est une autre manière de dire travailler sa marque et c'est une manière aussi d'être exigeant vis-à-vis de soi-même et de s'assurer que le contenu qu'on propose, il est original, il est unique, il nous ressemble et qu'on trouve vraiment sa matière pour pas s'épuiser et pour faire en sorte que son contenu, il se démarque par rapport aux autres. Et il soit vraiment de qualité. Et pour moi, se démarquer par rapport aux autres, c'est le meilleur moyen de créer du bouche à oreille. aujourd'hui, la première manière de découvrir un nouveau podcast, pour les gens qui en découvrent, c'est le bouche à oreille. C'est quelqu'un qui t'a recommandé un podcast. Parce qu'en tant qu'amateur de podcast, on est tous stockés et on a envie d'évangéliser les gens. En mode, oui, j'ai entendu un podcast qui parlait justement de la culture des champignons. J'ai vu que tu aimais beaucoup ça. Et donc du coup, si tu construis ta différence, eh ben, tu facilites les gens qui t'aiment déjà, tu facilites le travail des gens qui t'aiment déjà pour en parler autour d'eux. Parce que du coup, tu leur as donné une matière spécifique, une manière de parler toi qui est vraiment unique et qui va convaincre les gens autour de toi. Par exemple, toi et moi, Safia, on est fan d'un podcast qui s'appelle...
La Chamade. Donc, si les gens ne le savaient pas encore, c'est bon là, définitivement ils le savent.
Voilà. Là, on aurait envie d'avoir un petit sound design avec poupoum, poupoum, poupoum. Et donc, ce podcast, si on dit très bêtement, c'est un podcast qui parle d'amour. Moi, je dis ça à ma pote Julia. Elle me dit « Simer, Anne-Claire, mais ça m'avance pas trop, j'ai pas trop envie de l'écouter, le podcast. » Elle dit « Bon, et sinon, on prend un café latte ou un matcha latte ?» Tu vois, elle passe à un autre sujet. Mais comme Samia Basile, elle est hyper forte et c'est une grande pro, elle a travaillé son concept, elle a travaillé sa différence. Et donc, du coup, quand je te dis « Hey, salut Julia, j'ai découvert un podcast hyper drôle, où il y a Samia qui invite un humoriste ou une humoriste à commenter une histoire d'amour en mode gossip. Il n'y a que des rebondissements. Franchement, on se marre trop. Et en plus, c'est trop intéressant parce que ça me fait poser plein de questions sur les histoires d'amour. Julia, elle me dit, vas-y, partage-moi le lien. Et donc, c'est là où on voit entre juste dire, bah, mon podcast, c'est un podcast qui parle de thématiques, ou dire, mon podcast... il apporte cette thématique, mais de cette manière-là, d'avoir travaillé sa différence, ou autrement dit, d'avoir travaillé un concept unique, ça permet aux gens d'en parler plus facilement et ça attire l'attention davantage. Donc là, moi, j'ai donné un exemple qui est travailler un concept, donc c'est la forme, la façon dont on va aborder dans le format ou dans le storytelling son contenu. Mais une super manière de aussi se différencier, c'est de travailler ses convictions. Je disais un peu plus tôt que quand on lance un projet, on a toujours quelque chose dans le bide. Pour moi, si on s'accroche comme des tannés, comme des perdus, comme des galériens à sortir un podcast semaine après semaine ou mois après mois pendant des mois, c'est qu'il y a un truc vraiment qui nous brûle de l'intérieur. C'est quelque chose qu'on a envie de partager, quelque chose, une parole qu'on n'entend jamais et qu'on a envie de pousser, ou quelque chose qu'on avait envie de combattre, des préjugés, des tabous, etc. Moi, je vous conseille de travailler sur ces convictions-là, ces croyances fortes qui vous drive, parce qu'elles sont uniques pour vous, Yon. Et votre approche, votre histoire, elle est venue nourrir ces convictions-là. Et si vous en parlez à votre audience, eh ben déjà, je trouve que ça donne plus d'assises, ça donne plus de portée à votre podcast. On comprend un peu tout ce qu'il y a derrière. Et en plus, bah, personne d'autre que vous parlera de vos convictions aussi bien que vous. Et donc là, ça va vous démarquer, ça va créer une différence nette et précise par rapport à tous les autres podcasts de votre thématique ou qui vous ressembleraient.
Ouais, ça c'est un excellent conseil, je trouve, parce qu'effectivement, en fait, on remarque qu'il y a une grande croissance au niveau des podcasts sur l'entrepreneuriat et le marketing. Essentiellement, tout le monde aborde les mêmes sujets de la même manière. Voilà, c'est du vu, revu, on n'apprend rien de nouveau. Pour autant, si tu abordes les choses différemment, et que tu mets en avant tes convictions, je trouve que ça change tout. Pour ça, j'ai un bel exemple perso. Nina Ramen, qui est copywriteuse, je trouve qu'elle se démarque des autres copywriters par ses convictions, par le fait qu'elle mette en avant le féminisme, sa vision de la maternité, etc. En fait, on a une vision très claire de son positionnement et je trouve que c'est effectivement beaucoup plus puissant que n'importe quel copywriter qui est là et qui met du contenu en ligne et qui nous partage des conseils qu'on a déjà vus un peu partout, quoi.
Exactement. Exactement. Et là, tu vois, Nina t'a donné un exemple où elle a travaillé encore plus largement ses convictions, en fait, sur la vie en général. Donc ça, c'est vraiment quand on est vraiment très musclé par rapport à cette marque personnelle qu'on va construire. Et ça a tout intérêt à être un travail qu'on fait parce que ça crée un lien émotionnel avec les gens. Et ça se crée un lien émotionnel qui peut être du rejet, mais en fait, tant mieux, mais aussi une attraction forte ou une adéquation forte avec ce qu'on dit et comment on le dit, et du coup, créer un noyau très fort autour de vous de personnes qui vont être attachées à votre contenu, vont vouloir qu'il marche et vont vouloir le partager autour d'eux. Et ça, c'est quand on sent que le bouche à oreille se fait, c'est vraiment les frémissements d'une croissance qui est en train de se mettre en place de manière très solide.
Très bien, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que le bouche à oreille, pour moi, ça a fait la différence. Quand une personne vient de me dire « Ah, j'ai découvert ton podcast parce que ma belle-sœur me l'a recommandé » ou « parce que ceci ou cela », en fait, l'avis de la personne que tu connais a tellement plus d'impact que la façon dont on peut tomber sur ton podcast sur Internet ou on peut lire un article qui cite une liste d'émissions à voir. Donc, je trouve qu'effectivement, c'est un bon concept et d'aller taper là-dessus en se différenciant à la fois et par le format ou par ses convictions, parce qu'au final, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il y a juste à assumer un peu et à se dire « Ok, certaines personnes ne vont pas être d'accord et vont peut-être me le dire ». Mais c'est pas grave, puisque c'est ce que je crois vraiment, donc c'est le plus important.
Ouais, exactement, exactement. Mon deuxième conseil, ça serait de, puisqu'on est vraiment sur cette approche de créer des liens émotionnels avec ses auditeurs, comme je vous disais, pour créer le bouche à oreille et faire en sorte de trouver son minimum viable podcast, on l'a pas tant qu'on n'est pas persuadé que notre contenu, il est fait à 100% sur mesure pour les gens à qui on le destine. Ça aussi, c'est une manière de travailler sa différence, mais connaître en profondeur ses auditeurs, c'est un travail que malheureusement, les podcasteurs ou les créateurs de contenu ne font pas assez et qui est indispensable pour créer ce match, en fait, et faire en sorte que notre contenu il devienne indispensable pour des gens, qu'ils en parlent autour d'eux et qu'ils le fassent grandir en le partageant. Mon conseil, du coup, c'est de lister qui sont les 10 personnes qu'on ne connaît pas, qui interagissent souvent avec notre contenu, qui ont laissé un avis Google, qui viennent commenter sous nos posts Instagram, qui répondent à notre newsletter, et regarder un peu qui sont ces 10 personnes et se voir s'ils ont l'air d'être alignés avec l'idée qu'on se faisait de notre persona. Notre persona, c'est un concept marketing, vous avez sûrement dû entendre parler. C'est une manière de dresser un portrait robot, mais en fait pas si robot que ça. C'est-à-dire comme si c'était une vraie personne à qui on destinait ce podcast. Et c'est un effort, c'est un travail qui demande un effort pour du coup aller se plonger dans la psychologie de cette personne. Et donc du coup, comparer ces 10 personnes qui interagissent souvent, vos 10 premiers fans, et voir s'ils sont alignés ou pas avec votre persona. Et ensuite, de les contacter un à un et leur demander une heure de leur temps. Et d'aller vraiment discuter avec eux. Dans cette discussion, l'idée, c'est pas forcément de commenter la météo, vous vous en doutez, c'est de structurer un peu votre conversation autour de 3 grandes parties, je dirais. Le premier, c'est quelle est leur relation avec votre podcast ? Qu'est-ce que ça leur a apporté ? Est-ce que votre podcast est lié à des étapes de leur vie ? Est-ce qu'ils s'en souviennent ? Ils se souviennent qu'ils l'écoutent souvent à ce moment-là ou qu'ils l'ont partagé justement à leur belle-sœur qui rencontrait tel problème ? D'essayer de creuser vraiment des anecdotes particulières de leur relation entre eux, entre cette personne-là et votre podcast. Et l'idée, c'est de voir comment ils l'évaluent et surtout ce qu'ils aiment. Et de poser des questions très précises qui est « Qu'est-ce qui, selon toi, ferait que tu arrêtes d'écouter mon podcast si j'arrêtais de le faire ?» Et là, tu vois vraiment le truc qui fait ta différence. Et ça te permet du coup de construire et de voir quelle est vraiment ta différence. Par exemple, il y a quelque chose qui va ressortir qui est la manière dont tu poses les questions. Ou « J'adore ta question de fin ». Ou « Moi, j'aime bien parce que tu fais toujours des blagues sur ton chien. » J'en sais rien. L'idée, c'est d'aller voir vraiment de manière granulaire, de manière précise, ce qui fait vraiment le sel et les épices et ce qui donne du goût à l'écoute de ton podcast. Et ensuite, de créer, après avoir fait toutes ces interviews qui te permettent d'alimenter ton persona et d'avoir une réponse vraiment très précise à qui ils sont, donc je disais la relation au podcast, qui ils sont vraiment, donc leur quotidien, mais aussi leur motivation, leur peine, leurs grandes difficultés, qu'est-ce que leurs difficultés a de conséquences dans leur vie, ça permet d'avoir une approche plus précise de quelle est leur psychologie. Et dernièrement aussi, comment est-ce qu'ils se projettent par rapport à ce que tu as envie de mettre en place avec le podcast. J'aimerais bien lancer une newsletter, j'aimerais bien lancer un membership payant, j'aimerais bien créer un livre avec mon podcast. Quelle est leur réaction par rapport à ça et voyez comment est-ce qu'ils engagent par rapport à ces projets stratégiques que vous avez. Donc ça, c'est les interviews one-to-one. Une fois que vous avez conduit ces interviews, fait le persona, créez un système. Faites en sorte que cette façon d'aller demander la vie des gens, d'aller s'intéresser vraiment à ce qu'ils vivent et leur relation podcast, faites en sorte de faire ça de manière récurrente et automatique dans toutes vos communications. Je vais donner quelques exemples qui sont bêtes et méchantes, mais moi, c'est ce que je fais aujourd'hui dans tout mon écosystème de communication qui fait que j'ai une matière hyper riche et hyper complexe pour connaître les gens à qui je m'adresse. Donc, je donne quelques exemples. Quand il y a une nouvelle personne qui vient sur votre Instagram, posez-lui la question de comment il vous a découvert et quelle est sa relation à votre thématique. Ça, vous allez choper un petit peu des verbatims et des relations un peu pour voir comment ils sont dans cette phase de découverte de votre thématique. Moi, à la fin de ma newsletter, j'ai mis un système un peu de gamification où on clique sur un smiley par rapport à son appréciation du contenu de la newsletter. Et bien comme ça, moi, ça me permet de choper des feedbacks pour ceux qui se donnent la peine de donner des feedbacks. Et aussi, je peux avoir des données très quantitatives où je vois, du coup, au bout d'un an, quelles sont les thématiques qui ont suscité le plus de réactions positives ou négatives. En début d'année, j'envoie à toute ma base email 4 thématiques où je leur propose de choisir la thématique qu'ils ont absolument envie que je traite pendant l'année. Hyper facile, hyper simple, gamifié encore une fois. Moi, ça me permet d'avoir des tendances. Par exemple, j'ai une communauté et j'organise régulièrement des événements avec eux de manière gratuite, totale.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Pour échanger sur nos challenges, nos difficultés, j'ai créé un système. Tous les 15 jours, je suis en contact avec ma cible de manière hyper qualitative, de manière hyper en confiance, et ça me permet d'alimenter toute ma connaissance de mon prospect. Donc, vous arrêtez pas à ces 10 premières personnes, mettez en place un système autour de votre podcast qui vous permet de récolter du feedback de nature différente et de manière récurrente et automatique. Ça vous facilitera le boulot et au moment où vous ferez un bilan pour vous dire c'est quoi la prochaine étape pour mon podcast, vous aurez toute cette matière à analyser et ça vous permettra de faire des choix pas seulement émotionnel, pas seulement intuitif, mais qui se base sur des vraies données. Et ça, c'est clé pour construire une croissance.
Clairement. C'est clair que c'est l'exercice que tout le monde met un peu de côté parce que c'est pas forcément le plus fun. Mais en tout cas, c'est lui qui fait bouger l'aiguille et qui fait toute la différence. À quelle fréquence est-ce que tu fais le point sur toutes ces informations et que tu décides un peu de la trajectoire que tu vas redonner à ton podcast ? Est-ce que c'est une fois par an, deux fois, peut-être un peu plus ?
Mon conseil, c'est de dédier l'intersaison à faire tout ce bilan-là. L'intersaison, c'est cette période entre la fin d'une saison et le début d'une prochaine. Parce que moi, c'est un conseil que je donne à tous mes clients et toutes les personnes que j'accompagne, c'est surtout, travailler en saison. Je sais que ce n'est pas un avis qui est partagé par tout le monde, mais travailler en saison, ce système d'organisation, pour moi, c'est le meilleur moyen pour garder la motivation, pour garder un contenu de qualité toujours supérieur et pour construire une stratégie qui soit pertinente et alignée justement avec les attentes de notre cible. C'est dédier un moment pour faire le point sur ce qui marche, ce qui marche pas, ce dont on a envie et où est-ce qu'on va. Et du coup, l'intersaison, c'est le moment où, notamment, on va se plonger dans toutes ces données de connaissances utilisateurs pour voir où est-ce qu'on va aller en fonction de nous, nos propres objectifs, nos propres envies, mais toujours les confronter à la réalité terrain et voir si les gens à qui on s'adresse, ils l'attendent, oui, non. S'ils ne l'attendent pas, comment est-ce qu'on va faire de la pédagogie, justement, pour leur expliquer ce qu'on va leur proposer.
Carrément. Et puis pour les personnes qui ne fonctionnent pas avec des saisons, je pense que c'est bien de faire un break avec son podcast de temps en temps pour sortir la tête du guidon. Moi, c'est une chose que je fais l'été, je prends un mois off, que je fais aussi en décembre, le mois off, et ça me permet d'avoir le temps de me poser, de réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de mettre en ligne. Et je sors un peu, tu sais, du train-train du quotidien et du rythme dans lequel tu te mets. Donc c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que de faire un break avec son podcast pour décider comment on a envie finalement de diffuser, ce qu'on a envie de transmettre, qui on a envie de mettre en avant, etc. etc.
Parfait. C'est pas des saisons stricto sensu ce que tu dis, mais en gros c'est une temporalité, ce qui revient un petit peu au même par rapport aux avantages que j'avais partagés juste avant. Ensuite, le troisième conseil que je donne pour justement actionner des leviers, faire en sorte que notre podcast il soit taillé sur mesure pour la croissance, c'est d'arrêter de considérer son podcast comme étant tout seul, comme étant un joyau unique là, qui brille, et parce qu'il est tellement bien, et les gens vont venir à lui. Ça ne va pas marcher. Mon approche, l'approche que je défends, c'est de créer un écosystème autour de son podcast. Parce que vous l'avez entendu, ça fait pas plaisir à entendre, mais la promotion de son contenu, c'est 70% du boulot. Quand vous avez appuyé publier sur votre hébergeur au show Audio Mins, je ne sais pas, vous avez que 3 pas sur les 10 qui sont nécessaires pour que votre épisode il atterrisse dans les oreilles de cette personne à qui vous le destinez. Donc du coup, la raison pour laquelle ça fait pas plaisir d'entendre ça, c'est que ça demande beaucoup de travail de promouvoir son podcast. Et donc du coup, de faire en sorte que la communication elle soit une pièce du puzzle de son écosystème, c'est-à-dire que la promotion et la communication, elles sont pensées comme un tout, et ben ça simplifie le boulot, parce que c'est pas comme si on avait fait un premier voyage et puis on devait reprendre son souffle pour aller, c'est reparti, se trousser les manches et la corvée de la communication. Je vais te donner un peu de concret sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire créer un écosystème ? Ça veut dire que parfois on va prendre du recul par rapport au temps dont on dispose dans la semaine ou dans le mois. On va prendre du recul par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre avec ce podcast. Et on va décider de diminuer sa fréquence de publication. Parce que courir comme un taré à publier un épisode par semaine, ça nous laisse mécaniquement pas le temps, à moins de prendre des enfêtes, de créer le contenu de communication pour valoriser justement ces épisodes qu'on va sortir toutes les semaines. C'est pour ça que je dis considérer le podcast comme un écosystème, c'est avoir une approche holistique, je dirais, de voir comment est-ce que le podcast il s'intègre dans un emploi du temps, il s'intègre aussi par rapport à des objectifs qu'on a envie d'atteindre grâce à ce podcast, et de prendre des décisions stratégiques pour faire en sorte que ce podcast il serve un tout en fait. Et parfois, diminuer sa fréquence de publication, ça fait que on dédie moins de temps à la maintenance, c'est-à-dire l'enregistrement, l'écriture de la description et la publication, et on a plus de temps pour des choses importantes qui est la valorisation de notre contenu. Ensuite, un deuxième exemple concret, c'est un sujet qui est hyper riche et hyper vaste, ce sujet d'écosystème, mais je vais essayer de donner encore 2-3 autres exemples, c'est de faire en sorte de créer une communication qui est cadrée, qui est processée, où on sait toujours que pour un épisode, on va avoir 3 types de contenus. Je vais citer les plus classiques, mais par exemple, une citation, un carrousel et une vidéo short, par exemple. Et je sais que j'ai ce process-là de création de posts pour valoriser mon contenu, ma citation, pendant que je suis en train d'enregistrer, soit en solo, soit avec mon invité, ma citation, je la marque à la fin de mon interview. Je sais, j'ai ma mémoire qui est déjà fraîche, et je mets, quand il parle de XXX, c'est le moment où je vais créer ma citation. Ou par exemple, je vais écrire ma description de mon épisode à la fin de mon interview aussi, j'ai ma mémoire fraîche, j'y vais et j'ai pas à réécouter mon dérush de 45 minutes, une heure, ça crée plus de pénibilité. Donc c'est vraiment considérer un écosystème et faire en sorte que toutes ces tâches se répondent et qu'on puisse anticiper dans le présent ce qu'on a à faire dans le futur. C'est ça créer un écosystème. Ensuite, c'est de faire en sorte de recycler son contenu pour que les gens qui n'écoutent pas de podcast puissent tomber sur notre podcast. Donc ça, c'est vraiment le système de la phase d'écosystème un petit peu plus élargie. C'est de se dire que comme on connaît notre auditeur, on sait ce qu'il recherche, on sait quels sont ses problèmes, on sait aussi où est-ce qu'il va chercher ses solutions et on fait en sorte de se trouver de manière tactique à ces endroits où il va aller chercher ses solutions. Et donc du coup, faire en sorte par exemple de créer un blog avec des retranscriptions de nos épisodes qui sont positionnés sur les bons mots-clés qui correspondent à des requêtes que notre auditeur cible va faire, où on va aller faire en sorte de créer des partenariats avec des gens qui vont aussi toucher notre persona pour d'autres problèmes qu'ils auraient ou d'autres solutions qu'ils recherchent. Et donc, du coup, on crée un écosystème. Et on fait en sorte que toutes les actions de communication qu'on va faire, elles se rejoignent les unes les autres et on ne soit pas en train de s'éparpiller comme ça, mais on voit vraiment quel est l'empire qu'on crée autour de notre podcast, en gros. Je ne sais pas si c'est assez concret ce que j'ai partagé.
Si, c'est très clair. Okay. Ouais, ouais. Mais j'aime bien cette idée de construire l'empire de son podcast.
Exactement.
Ça me plaît beaucoup.
Parce que... À moins que, il y a certaines personnes qui ont cet objectif-là, de se dire, moi, mon but, c'est d'être podcasteur professionnel. J'ai envie de produire des podcasts pour Arte Radio ou Slate ou je ne sais pas. Souvent, on a une approche d'avoir un objectif d'être reconnu sur une thématique, d'être identifié comme expert ou experte pour telle problématique, etc. Et donc, du coup, on a une approche d'être le plus visible sur cette thématique-là et donc, du coup, de prendre de la hauteur et de créer justement de la visibilité autre que le podcast sur nos convictions, notre approche, nos idées propres, et ça fera que notre podcast, il va grandir, mais aussi tout l'écosystème qu'on va mettre en place autour.
Oui, complètement.
Et ensuite, on arrive à la fin de mes conseils. Le dernier, c'est d'aborder la croissance de son podcast sous une forme de co-construction. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se sentait souvent un petit peu seul quand on avait son podcast. C'est quand même quelque chose d'assez solitaire, il y a plein de tâches à prendre en compte, il y a plein de décisions à prendre, etc. Et même si on fait des interviews et qu'on rencontre plein de gens, et parfois, on se sent un petit peu seul. Et donc du coup, aborder la croissance de son podcast sous un prisme de co-construction, c'est faire en sorte qu'on n'est plus les seuls responsables et acteurs de la croissance du podcast. Moi, je le ferai sous trois aspects. Le premier, c'est faire de la co-construction avec sa communauté. Comme je disais dans le conseil numéro 2, on a identifié nos 10 auditeurs fans et comme on a mis en place ce système pour connaître, interagir, engager les gens avec qui on s'adresse, en fait, notre communauté, elle est passée de 10, puis à 100, puis à 1000. Et si on est vraiment dans la co-construction, qu'est-ce qu'on fait ? On propose à notre communauté de choisir pour nous, de nous aider à choisir pour nous-mêmes, de contribuer, de créer du contenu pour nous. Moi, je vais te donner deux exemples que j'ai appliqués, parce que je suis une bonne élève de moi-même, je m'applique mes propres exemples à mes propres cas. Par exemple, là, je suis en train de refaire mon identité visuelle, parce que j'ai fait un bilan entre deux saisons et que j'ai une nouvelle approche stratégique de tout ce que je fais autour de EcoFactory et Antipop. Et j'arrivais pas à décider entre 4 palettes de couleurs que la graphiste avec qui je bosse m'avait proposé. Et je suis allée voir ma communauté, je leur ai partagé en amont tout ce projet d'identité visuelle que j'avais, j'ai vu qu'ils avaient de l'intérêt, ils m'ont demandé d'en dire plus. Donc du coup, je me dis, c'est une bonne idée, je vais leur partager les 4 palettes de couleurs et je vais leur demander de voter. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça m'a pas du tout aidé à choisir parce que j'ai vu que les 4 palettes étaient à égalité. Et donc du coup...
Ok.
c'était un super indicateur. Parce que moi, pour tout avouer, j'étais, si j'arrivais pas à choisir, c'est que j'étais pas totalement emballée. Et donc, j'ai vu que le chemin dans lequel je m'engageais, bah, c'était pas le bon. Parce que ma communauté m'a envoyé un signal clair que, en fait, il n'y a rien qui se démarque. Du coup, bah, j'ai rebroussé chemin et j'ai travaillé sur une palette de couleurs qui est totalement différente et dont je suis hyper fière et hyper convaincue aujourd'hui. Donc, c'est co-décider avec sa communauté et bien interpréter les signaux qu'elle nous renvoie par rapport aux décisions qu'on a envie de prendre pour voir si on les valide ou on les invalide. La deuxième façon que j'ai de co-créer avec ma communauté, c'est que je leur demande régulièrement des retours d'expérience. Salut les gars, salut les meufs, je cherche des gens qui ont déjà mis en place des cross-promos avec d'autres podcasteurs et j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Je crée des épisodes collectifs sur mon podcast Antipop où en gros je vais aller chercher toutes ces expériences là hyper concrètes de voilà ce que j'ai fait, voilà comment ça a marché. Grâce à la mise en valeur de l'expérience de ma communauté, bah, j'ai du contenu qui est encore plus proche du terrain puisque c'est des vraies expériences, c'est pas seulement une approche stratégique ou moi mon point de vue, c'est des choses qui sont hyper pertinentes pour les podcasteurs puisque du coup je leur propose une variété d'expériences et en plus eh ben, on co-crée du contenu duquel ils sont hyper fiers et qui vont encore plus partager. Et donc, du coup, ça permet de faire grandir mon podcast.
C'est vrai que ça, c'est important. Moi, je peux aussi partager mon expérience sur ce genre de contenu collaboratif avec l'audience. Moi, j'avais fait une FAQ où, en fait, j'avais partagé un lien SpeakPipe. Et donc, mes abonnés pouvaient me laisser un message vocal avec leurs questions. Et moi, je diffusais le message vocal et j'y répondais juste après. Et donc, ça m'a permis de faire une petite série où bah, ça me permet, moi, de remercier les auditeurs, tu vois, qui me suivent et qui ont de l'intérêt pour ce que je fais et qui veulent apprendre. Et ça leur permet, eux, bah, d'être contents aussi d'être diffusés dans un podcast qu'ils aiment bien. Je trouve que c'est un bon exercice donnant-donnant, ce genre de petites actions.
Exactement, c'est donnant-donnant. Et ça fait que... bah, on se sent moins seul, on construit du contenu qui est encore plus pertinent parce que ils t'ont posé ces questions, donc ils ont envie d'avoir les réponses, donc ils vont l'écouter, donc ils vont peut-être le partager. Et en plus, ça fait que ça crée de l'engagement et les personnes, elles se sentent responsables du futur du projet que tu construis. Tu leur ouvres un petit peu la porte et tu leur proposes d'embarquer sur le bateau avec toi. Et donc, du coup, ça crée encore plus de liens et d'attachement à ce que tu fais et de répondant le jour où tu leur proposeras peut-être l'étape d'après ou une formation qui est adaptée à ces questions qu'ils t'ont partagées. Mmh. Voilà.
Complètement.
Deux autres manières de co-créer, c'est avec d'autres podcasteurs. D'être vraiment dans une approche de partenariat et de chercher comment est-ce que, puisqu'on a des différences très marquées, on peut faire en sorte d'assembler nos différences pour proposer quelque chose qui est encore plus pertinent pour les gens à qui on s'adresse. Il y a plein de manières, en fait, de faire de la co-construction avec d'autres podcasteurs. Ça peut être on s'invite mutuellement dans nos podcasts. Bah, c'est peut-être... on pourrait qualifier ce qu'on fait, en fait, Safia, toi et moi.
Ouais.
On peut créer un contenu unique qu'on va diffuser sur plusieurs flux. Il y a un collectif de podcasteuses sur le futur du travail qui s'appelle Sowo, qui a enregistré un seul épisode qu'il a diffusé. Il me semble elles sont 5. Donc du coup, ça apporte une visibilité hyper forte auprès d'audiences qui sont similaires. Ça peut être de co-créer des événements. Ça aussi, par exemple, toi et moi, on a pu le faire. Et de vraiment d'avoir cette approche de comment est-ce qu'on assemble nos différences, nos approches, pour faire en sorte d'atteindre des gens qui seraient intéressés par l'une et l'autre de nos approches. Donc vraiment, d'être dans cette approche de co-construction, pour moi, c'est unir des forces pour aller atteindre le niveau du dessus. C'est pas forcément évident ce que je dis, parce que parfois on se sent un peu seul justement en tant que podcasteur, et du coup là mon conseil ça serait d'intégrer des communautés. Donc ça peut être des communautés totalement gratuites, des groupes Facebook, moi j'ai une communauté qui s'appelle EcoFactory, ou même juste de contacter des gens dont vous vous sentez proche, parce que vous aimez leur humour, leur approche, leurs valeurs, ou vous sentez que vous avez des choses à partager. Et créez-vous un groupe WhatsApp, échangez. C'est vraiment un moyen d'aller vraiment atteindre la marche du dessus, de vraiment créer des partenariats stratégiques, comme on dit en marketing.
Ouais, moi j'ai commencé à en faire en 2021. Et c'est vrai que ça a fait la différence sur mon podcast. Je l'ai vu tout de suite à la fois dans la proximité et le contact avec les gens, il y en avait plus, mais aussi en termes de visibilité. Pour moi, ça a été le levier, clairement, de loin, le plus efficace en termes de croissance.
Génial. Bah, merci pour ce retour. Je crois que je l'ai observé, j'ai vu un peu ce genre de choses. Sachez que pour une audience, c'est super valorisé de voir avec qui la personne est amie, semble avoir des liens, etc. Parce que ça l'ancre encore plus dans la réalité et ça contribue à augmenter la jauge de crédibilité. Parce que c'est aussi un biais cognitif qui s'appelle l'effet halo, c'est que les gens avec qui on traîne, en gros, que ce soit nos invités dans nos interviews ou nos partenaires stratégiques, fait qu'il y a une espèce de contamination positive de leur image de marque par rapport à notre image de marque. Donc le plus vous trouvez des gens avec qui vous ressemblez, vous créez des choses qui sont originales, qui sont riches, le plus ça aura un impact quantitatif, comme tu disais, mais aussi qualitatif sur votre qualité perçue en termes d'image de marque personnelle.
Je suis d'accord là-dessus.
Et la dernière manière de le faire, cette co-construction, c'est encore plus engageant, c'est encore plus fort, c'est de créer ce qu'on appelle un comité édito stratégique. C'est du coup de carrément donner une voix au chapitre, de donner la possibilité peut-être à ces 10 fans que vous avez identifiés de décider pour vous les lignes édito, de vous faire des feedbacks sur vos épisodes, de pourquoi pas passer de l'autre côté du micro et animer une table ronde que vous organiserez, un événement en public, etc. Mais de leur donner un rôle et une possibilité, un pouvoir de décision dans votre podcast, ça créera encore plus, comme je disais, de pertinence, mais aussi d'engagement, et aussi ça démultipliera les ressources à votre disposition en termes de temps, en termes d'idées, mais aussi en termes de réseau pour faire grandir votre podcast.
Est-ce que tu as des exemples de podcasts ou podcasteurs qui ont utilisé cette méthode ?
Ouais, j'en connais deux. Le premier, c'est Laurent Brouat avec Il était une fois l'entrepreneur. Il a créé ce système de comité édito stratégique à un moment où il voulait remodeler son podcast pour arriver à la version qui est actuellement. Il a fait beaucoup de réunions pour comprendre ce qui allait, ce qui n'allait pas, avoir des feedbacks, etc. Et je sais que il me semble qu'il le fait toujours, qu'il se retrouve à échéance régulière pour toujours prendre la température de ce qu'il est en train de faire. Et deuxième personne...
Très bien, c'est mon prochain invité, donc je pourrais lui reposer la question derrière pour savoir s'il le fait toujours ou pas.
Et la deuxième personne, c'est François Piccione qui a créé Bobine. Et il a un comité édito trimestriel où il va dévoiler sa stratégie pour le trimestre à venir à ce comité édito de confiance. Il va leur dire voilà où est-ce qu'on va aller, combien je vais investir dans ça, quels sont les prochains projets, etc. Et il va récolter du feedback, des retours, mais leur permettre de décider aussi certaines actions sur lesquelles il leur laisse le pouvoir de décider. Aujourd'hui, vraiment, François, il a créé un écosystème, un média autour de Bobine, qui est un podcast qui met en avant les savoir-faire du terroir de France avec une approche vraiment Média 360, un magazine papier qui sort une fois par an avec du contenu hyper qualitatif, des photos en mode reportage sur son site internet. Et il a ce comité édito, mais aussi toute une galaxie de professionnels avec qui bossent, qui viennent enrichir le projet et ils jouent de manière vraiment collective. Et ça fait aujourd'hui, selon moi, un des atouts clés de la croissance de son projet.
D'accord, très intéressant en tout cas. Effectivement, je trouve que c'est une stratégie... Enfin, il n'y a pas mieux, quoi. Si tu veux des feedbacks pour savoir si ce que tu as prévu est pertinent, il n'y a pas mieux que de demander aux concernés.
Ouais. Et je voudrais faire un petit... Je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, qui disent « Mais c'est quoi ma légitimité ?» Je suis sûre que vous dites ça, avouez. « C'est quoi ma légitimité à faire ça ? Je suis qui ? Je suis une simple podcasteuse, un simple podcasteur ?» Ayez de l'ambition et mettez en place les conditions pour votre ambition. Il y a beaucoup de personnes qui seront ravies de participer à ce projet parce que ils sont attachés à vos valeurs, à votre mission, parce que vous les avez exprimées, parce qu'ils ont envie d'avoir un side project et qu'ils n'ont pas le courage ou ils savent pas comment le faire tout seul. Et donc, vous serez étonné de voir le nombre de personnes qui répondent positivement à une invitation quand on fait l'effort de la formuler de manière engageante et inspirante.
C'est un très bon conseil, effectivement. Il faut se bouger les fesses, même si ça fait peur, même si on n'est pas sûr, même si on a des doutes. Faut y aller.
Grave.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Pour tous les conseils que tu nous as partagés aujourd'hui. Pour les personnes qui ont beaucoup apprécié tout ça et qui ont envie d'aller plus loin, eh bien, tu lances très prochainement ton programme Puzzle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Ouais, Puzzle, ça sera la 5e promo de ce programme. C'est un programme pour les personnes qui veulent donner de l'ambition à leur podcast et qui veulent vraiment avoir une approche entrepreneuriale de leur projet, parce que leur podcast est en lien avec leur métier, mais aussi parce que c'est un side project, mais qui se prennent au sérieux et qui veulent vraiment avoir une approche structurée et professionnelle de ce qu'ils mettent en place. Et on va travailler autour de la stratégie qu'il y a à mettre en place autour de son podcast pour créer un écosystème de communication, pour faire en sorte de travailler sa différence, sa marque et de créer une communauté engagée autour de son podcast. C'est un format qui est collectif, donc du coup, on a vraiment des liens très forts avec sa promo. Il y a des personnes de la promo numéro 4 qui, un an et demi après la fin de la promo, continuent à se voir tous les mois, à créer des choses ensemble, etc. Donc c'est vraiment une aventure collective, en plus d'être un endroit où on apprend beaucoup et on est boosté et on met en place les conditions pour créer la version 2 de... La version 2.0 de son podcast.
Très bien. Est-ce qu'il y a une liste d'attente que je pourrais mettre dans les notes de l'épisode ou un lien pour que les gens qui sont intéressés aujourd'hui puissent être tenus au courant de l'ouverture des inscriptions ?
Oui.
Parce que j'imagine que vu que c'est en petit groupe, c'est en place limitée.
Exactement. C'est place limitée, c'est 20 personnes maximum par promo. Et il y a une liste d'attente qui est disponible. Ou sinon, si les personnes s'abonnent à ma newsletter, je communiquerai dans ma newsletter sur l'ouverture du programme. Voilà.
Mais très bien, je mettrai ça dans les notes et le lien de la newsletter et le lien de la liste d'attente directe. Comme ça, au moins, il y a les deux et on est sûr qu'il n'y a pas de manquer. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour ton temps et tous tes conseils. C'était du pain béni pour nos chers auditeurs de Parlons Podcast et j'espère que ça les motivera à aller se challenger, pour le coup, à se bouger les fesses pour obtenir des résultats différents. Merci.
De rien.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.